switching on the radio. Working up to the sound. It's not my colors. This is my new generation.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ça nous fait toujours plaisir hein, quand nous savons très nombreux sur la 93.5. Votre fidélité nous honore. Fonia Singbe, le président de la République togolaise, a entamé ce mercredi sa mission de médiation entre les acteurs du conflit dans le Grand Lac en RDC. Le chef de l'État togolais a été reçu hier à Kinshasa par son homologue Félix Tshisekedi après avoir fait une escale stratégique à Luanda en Angola. En Angola, justement, les deux présidents sont revenus sur l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Les deux dirigeants ont également passé en revue les initiatives en cours pour le retour au dialogue entre Kinshasa et Kigali, ainsi que le rôle du Togo en tant que médiateur africain pour la paix et la stabilité entre les deux pays. Nous aborderons le sujet, puisque le sujet nous intéresse bien sûr dans l'émission Club de la Presse, et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui. Nous allons aborder tous ces sujets dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 17 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vito Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Akoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousso au micro. Recevez nos salutations fraternelles, vous tous qui nous écoutez actuellement sur, enfin partout au Togo, grâce à nos différentes radios partenaires, et Radio Lumière à Aniro, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous le savez très bien, vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au jeudi. Ambroise Kondou est là. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les amis techniciens qui sont de l'autre côté. Pardon, excusez du peu. Bonjour à ceux qui
vous... Vous avez un chat dans la gorge, là.
Oui, un petit chat. Un petit chat. Et nous, je salue tous ceux qui sont à Dapaon, Kara, Sokodé, Mango, jusqu'à Tapamé, Lomé-Thévié et tout ça, qui nous suivent lorsque nous sommes ici tous les jeudis pour animer le Club de la Presse et donner notre point de vue sur les sujets d'actualité. Alors, je voudrais profiter pour encourager... j'étais à Nairobi la dernière fois, lors de l'anniversaire de Dadede, et j'ai été surpris par la manière dont cette route a été bâtie, la route d'Nairobi. C'est une route que j'ai... C'est vrai que la route de Palimé aussi a été bien faite, mais j'ai plus apprécié... parce qu'entre deux jeunes filles, il y a toujours quelqu'une qui est plus belle. La route d'Anero qui a
été... Et ça dépend aussi de la personne qui apprécie.
Oui, c'est relatif, c'est vrai. Mais la route d'Anero, je ne sais pas, hein, je peux me tromper. Je ne sais pas si c'est, c'est la manière dont ils l'ont construit, ou c'est le paysage, ou en plus l'environnement qui a fait que je pense que c'est une route qui a été très bien construite avec ces différentes bordures là, les péages, tout ça. J'ai tombé des nues. Et je l'ai apprécié à sa juste valeur. Et jusqu'à ce que la dernière fois, j'ai titré la route d'Anekor et d'Adidé Gomé, bien faite, qu'il faut répliquer à Ségbé. Pour Ségbé, c'est très important. Pour les populations de Ségbé, d'Akato, Akato Démé, Viepé, Avoimé, de Clémé jusqu'à Sagbado, jusqu'à là. Et donc, c'est pour encourager la SAFER. En fait, la SAFER qui ne construit pas la route. C'est la SAFER qui mobilise les ressources, ouais, pour pouvoir le donner au ministère des Travaux publics, au ministère des Travaux publics et infrastructures,
infrastructure routière,
pour pouvoir construire la route. Et donc, la SAFER fait ce qu'elle peut déjà. Nous, on l'encourage à continuer. Mais que ceux-là qui sont appelés à prendre les ressources pour construire, qu'ils repliquent ce que j'ai vu textuellement à Nero. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a une route au Togo qui soit bien bâtie, bien construite comme la route d'Anekor. Pour ceux-là qui nous suivent actuellement, ils n'ont qu'à faire juste le tour de la ville, vous allez comprendre. Et c'est j'ai aimé ça. J'ai aimé, je ne sais, franchement parlant, je ne sais pas. Mon problème, ce n'est pas l'entreprise qui a construit. Mais le maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage, ceux-là qui ont demandé à ce que cette route soit construite, après mobilisation de fonds, qu'ils répliquent ça. À Nanébé, à Zosimé, d'abord la route de Ségbé, jusqu'à la route de la Pampa, jusqu'à la route de Bagida, une route qui quitte Arigo, la route qui quitte derrière Ecobank jusqu'à Arigo là. Il y a plein de routes. Quand il peut, mon frère, tu ne peux pas. Et maintenant, répliquer dans les grandes villes, dans les grands cantons, Thévier, Anéron, Afagnan, Tabligo, ils n'ont qu'à répliquer ça. Ils ont bien fait la route là. D'accord. Ils ont bien fait ça.
D'accord. Et venant de toi, Ambroise, ces appréciations, ça veut dire que ça doit être.
Mais il y a une partie là-bas au niveau du péage qu'il faut aménager, parce que là, vous venez au niveau du péage, vous allez glisser. Ils n'ont pas bien arrangé.
Non, mais je pense là-bas que le péage me met en construction.
Ah, ok.
Il y a, oui, effectivement.
Ah, donc ils n'ont qu'à arranger là.
Et justement. Et il y a c'est en construction, puisque moi-même aussi j'emprunte cette voie. Pratiquement. Magola Keviteko, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal.
Et quand je vous voyais, quand nous parlions même d'ailleurs de cette route, il y a un petit sourire quand même que vous esquissez. Mais est-ce que vous empruntez aussi souvent cette voie?
Oui, mais pas trop fréquemment. Mais il faut dire que moi, j'emprunte beaucoup plus la route Lomé-Palimé. C'est vrai que je vais également au village à Kalakou, donc forcément je passe par la route Lomé à Neho. Mais toujours est-il que aujourd'hui on peut s'estimer heureux que ces routes, il faut l'avouer, pendant longtemps en souffrance, hein, parce que la route Lomé à Neho, il a fallu qu'on crie sur les médias, relance les débats pour que l'entreprise en question puisse remettre en cause, déployer l'artillerie lourde pour finalement arriver à cette étape du chantier où on est. Et comme Ambroise l'a dit, la satisfaction est grande. C'est également le cas de la route Lomé, disons, Palimé, qui, après plusieurs mois, disons même des années, parce que ça a dépassé largement le délai requis normalement pour les travaux, mais finalement, le produit final suscite estime et admiration. On ne peut donc qu'encourager tous les acteurs impliqués, surtout l'État togolais qui se trouve être le maître d'ouvrage, parce que c'est de ça qu'il est question. Quand on investit l'argent du contribuable dans une entreprise, dans un projet, l'essentiel est de veiller à ce que l'entreprise ou les travaux soient bien faits, pour que ça profite aux consommateurs finaux qui sont les usagers que nous autres nous sommes. Donc, si on est ici pour apprécier ce qui a été fait, c'est que qu'on admette également que quand ça ne va pas, qu'on accepte que nous soyons encore ici à dire que ça n'allait pas, et c'était dans l'intention justement d'actionner les pistes qu'il faut pour rendre encore plus parfait ce qui se faisait. Et donc, tout comme Ambroise, je me réjouis que les deux axes soient vraiment construit comme il le faut pour la satisfaction des usagers.
Mais ils ont raté la route de CB. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je donne juste l'exemple, juste cet exemple-là. Vous construisez une route. D'abord, la route est très étroite.
Non, j'ai pas entendu ça. Je crois que l'histoire de la route de Ségbé même était une histoire particulière et atypique. Vous voyez, si vous vous rappelez à l'époque, ce n'était même pas dans le plan. C'est-à-dire la portion Douana Didogomé,
Ségbé. C'était pas dedans.
Ce n'était même pas dedans. On avait inauguré les champs. Enfin, on avait procédé au lancement officiel des travaux à, comment vous appelez ça, les travaux qui devraient quitter Casablanca
pour aller à Palimé.
Et d'un coup, on nous informe que l'entreprise devait faire une petite déviation pour faire la route de Ségbé. Alors que ce n'était pas...
Juste nous faire quelque chose.
Voilà.
On a compris que ils ont voulu juste nous faire quelque chose.
Exact. C'est un peu comme...
Mais au lieu qu'il le fasse...
Il faut qu'on aille un, s'il vous plaît.
Au lieu qu'on le fasse de façon bien en même temps, c'est-à-dire, il ne faut pas... Quand vous voulez faire quelque chose dans un pays, c'est une question de vision, hein. Il faut le faire bien. Vous allez voir la ministre qui était là, la ministre des Travaux publics là. Il semble que c'est elle qui avait dit sur une radio qu'on croit, c'est une route de frontière. Mais la route de la Nefort, c'est quelle route? La route de la Nefort, c'est quelle route? Ça quitte Aflaou, non? Les routes de frontière là. Ça quitte Aflaou jusqu'à la frontière Togo-Bénin.
On parle même d'ailleurs de corridor.
Tous ceux qui sont sur la route de Ségbé, mon frère, si tu vas à Ségbé, Clémé, Lankouvi, Sagado, Ségbégan, Ségbévi, jusqu'à Akato Deme, Akato Avome, Akato Viepi, tout ça là, jusqu'à Sagado, à Renomé là. Mon frère, c'est des dizaines de milliers de personnes qui quittent à 7h jusqu'à 19h. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire, comment on dit ça, un rond. Tu ne peux pas. Tu es obligé de faire deux tours pour pouvoir contourner, tourner ton véhicule et retourner au sens arrière.
D'accord.
Ce n'est même pas possible. Pour finir, la route de Michintombé, Michel est là, il va compléter. La route de Michintombé là, c'est une route qui dessert jusqu'à très loin dans la vie. Mais on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas programmé. On a appris, il y a eu même des gens qui sont là, qui sont arrivés pour faire la topographie, tout ça là. Mais jusqu'à présent, quand il pleut là, mon frère, quand il pleut là, c'est la souffrance. Michel est là pour confirmer.
Michel est là pour confirmer. Michel Yao Tchadja, bonjour. J'espère que vous allez bien.
Vous parlez la grâce de Dieu, ça peut aller.
D'accord.
C'est avec plaisir, je retrouve mon jeune frère Mamoura, je ne l'ai pas vu il y a quelques jours.
Tout à fait.
Et puis, Ambras Konjo, je l'écoutais, il allait fêter l'anniversaire de ADD. Oui, c'est ça.
Oui, oui, c'était.
Sans moi, j'ai réclamé ça chez ADD.
Comme tu ne viens pas souvent.
J'ai réclamé ça chez ADD.
Il faut parler lever le McDonald's, on va t'inviter là-bas.
Ah bon, non, je parle, hein.
Ah, ok, c'est bon.
Peut-être même si c'est le minimum.
Au moins, tu es chez moi là-bas, oui. Tu dois parler lever.
Ou bien.
Ah, ouais. Moi, je vais à Cara, je parle Kabien.
D'accord.
C'est clair.
Ok, oui, bien, c'est
comme
vrai.
C'est le Togo. Oui. Nous parlons du Togo. C'est vrai. Nous parlons des routes. C'est une bonne chose. Je vous suivais en venant. J'étais un peu pris dans l'embouteillage là. Il a parlé de Michintombé. Il dit quand il pleut. Même, je préfère qu'il pleuve. Mais en saison sèche. Ce que nos amis de Michintombé et après Michintombé,
Covier,
ce qu'ils subissent, non, c'est des fois les gens ont deux tenues. Ceux qui viennent, vous savez que les gens sont là-bas, ils travaillent à Lomé, ils ont deux tenues, une tenue pour la route et une tenue pour le service. Mais regardez, imaginez les femmes avec leurs cheveux et tout, mais ça dit que c'est difficile. Je ne sais pas, ceux qui font des études avant qu'on ne goudronne, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette route-là depuis des années? Ils disent quoi? Les études montrent que quoi? Que cette route a fait quoi? Qu'il y a quoi? Et bon, ça pose problème. Et jusque-là, cette route-là est comme ça. La route qui quitte le marché de l'Egbassimé jusqu'à Covier, même, et puis même jusqu'à, comment l'appelle-t-on là, le lieu de pèlerinage.
À
Covier. Oui, lors de pèlerinage. Ça draine du monde. Il y a plein de compatriotes qui viennent de là. Mais que Dieu grâce que vraiment nos autorités, et comme le Togo est vaste, je vais un peu vers le nord. Vous allez à Kara pour rallier le Ghana. Vous devez passer par les cantons d'Achangba, de Djamdé, et puis la préfecture de Bassa avant. Mais cette route-là, elle a été goudronnée. J'étais en classe de CP2. quand cette route-là a été goudronnée, après c'est des colmatages, mais ma foi, si vous, vous si une femme commence de convulsions, elle veut accoucher, on doit l'amener au SHU de Kara, et si elle est à Tchangbadé ou bien à Djamdé ou je sais pas, à Bassar, dans les cas extrêmes, pour l'amener à Kara, mais elle n'a pas la chance peut-être d'arriver. Donc, il faut quand même donner qu'on puisse revoir vraiment ces anciennes routes-là. Et il parlait de la route de Lomé à Nehor. Je l'emprunte tout le temps. Et je vois comment c'est très beau en roulant sur cette route-là. Nous souhaitons cela. C'est vrai, ce n'est pas aussi facile. Hein. L'État a beaucoup de priorités. Mais quand même, tout le monde le dit, la route du développement passe par le développement de la route. Et donc, nos autorités le savent mieux que nous. Nous demandons quand même qu'on puisse faire un effort pour donner quand même l'argent de vivre aux uns aux autres.
D'accord, merci cher confrère d'avoir accepté notre invitation. Alors nous abordons notre premier sujet par rapport à cette émission de ce jeudi, et c'est notre confrère Canal D qui nous donne bien sûr le sujet. Le journal parle alors de l'alimentation, et le journal écrit alimentation, tomates et piments verts au prix d'or, le climat pointé du doigt, les maraîchers dans la tourmente, le panier de la ménagère au bord de l'asphyxie. Alors, Ambroise, c'est vrai que quand on suit les saisons même d'ailleurs, pour la petite saison même d'ailleurs, c'est ces derniers temps, on voit quand même qu'il y a ce changement climatique et cette anomalie climatique, allons-nous dire, ce qui fait même d'ailleurs que ça rejaillit sur, ou ça donne des conséquences néfastes sur la production, c'est-à-dire l'agriculture. Et c'est ce qu'évoque même notre confrère Canal D.
Oui, je crois que le confrère n'a pas menti. Si vous avez la chance des fois d'aller dans nos marchés pour quelques provisions, vous allez vous rendre compte que les prix varient selon les saisons. Selon les saisons, les mi-saisons, c'est-à-dire que surtout la tomate et le, comment tu l'as appelé, Boybicella, comment
l'appelle? Oui, les piments verts.
Les piments verts. Bon, certains le confondent avec poivron, mais je crois que c'est les piments verts, effectivement.
Poivron, c'est plus,
et c'est plus gros et vert. Et donc, c'est une situation qui, effectivement, est liée au dérèglement climatique, auquel nous sommes obligés de nous adapter. Nous adapter, comment? Et c'est mon vieux qui disait, quand il était allé en Israël en 84, je parle de 84, il est retourné en 87, sur les toits des bâtiments en Israël, rien n'est gratuit en Israël. On fait du maraîcher. Il y a la tomate, il y a la salade. Et c'est arrosé. Ils le font en sorte que ça ne gêne pas le bâtiment. Et ils prennent même les épluchures d'igname et de manioc pour faire les biscuits. C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme de Lavoisier. C'est là-bas, c'est en Israël. Il dit, c'est là-bas, il a vu ça. Et ils sont tellement ingénieux que ils transforment tout là-bas. Ils peuvent. Il y en a chez ma grande sœur qui est décédée. Une fois que je suis allé, elle a pris des pneus. Elle a pris des pneus pour mettre du sable, produire des choux. Je l'ai vu. Choux et des petits poivrons rouges là, que j'ai vu chez Daredé. C'est-à-dire que on peut nous-mêmes, il faut qu'on soit résilient là. La résilience, c'est vrai qu'on n'a pas à Lomé, chacun cherche un petit lopin de terre, ne serait-ce qu'un quart pour construire. Il n'y a pas d'autres alternatives pour pouvoir. S'il y a des terrains vides, il y a plein de terrains. Ce que moi j'ai vu chez Daredé là-bas, si tout le monde arrive à faire ça dans son encablure, dans son entourage, mon frère, moi je connais certaines personnes, quand je prends le cas de Daredé par exemple, elle n'aura plus besoin de plusieurs, c'est-à-dire de ces condiments-là. Tomates, poivrons, tout ça là. Et mais je me rends compte qu'il y en a aussi certains patrons aussi qui le font. Ils n'ont pas seulement les champs de maïs et autres, mais ils ont des champs maraîchers. C'est-à-dire qu'où il y a la tomate,
c'est-à-dire le petit jardin.
Il y a le gombo. Moi j'en ai fait derrière ma maison avant que le mur nous soit vendu. J'ai fait Adémé, j'ai fait Bougombo, j'ai fait Épinard, Bouma. et il y a quoi encore? Et c'est du bio, quoi. C'est du bio. Moi, je crois que nous sommes obligés de passer par là. Parce que les bonnes femmes qui sont au marché, et la crainte aussi, c'est les pesticides qui aussi entrent en jeu. On ne mange pas toujours bio chez nous. Malgré que nous soyons, nous devons être les premiers à manger bio, on ne mange pas bio. Parce que on ne sait pas comment ça se cultive. Les gens peuvent même arroser avec des... Je ne veux pas parler de choses bizarres ici, mais nous mangeons des choses que nous ne maîtrisons pas. Et c'est Dieu seul qui nous maintient en vie. Hein. Mais au-delà de tout, comme il y en manque, il faut que nous soyons créatifs, que nous soyons résilients, que nous ayons... Bon, c'est pas tout le monde qui a un village, excusez-moi, parce qu'il y en a qui sont à Lomé ici qui n'ont plus de village, parce qu'ils sont nés ici. Nos amis de Baie, ils n'ont plus de terre pour pouvoir cultiver. Je n'invente rien. Moi, peut-être j'ai un village. Quand je vais chez moi, je peux trouver dans les réserves de mon vieux, de mon vieux, soit parental ou maman ou papa, je peux trouver quelque chose à faire. Mais il faut que ceux qui ont des lots vides là, à côté de la négocier avec les propriétaires, ça aussi les gens ne vont pas accepter parce que au fur et à mesure que tu viens cultiver là, tu peux aller enterrer des choses là-bas pour dire que la terre est à toi. Parce que moi, j'en ai écrit un dossier sur ça.
D'accord.
Donc, pour dire qu'en réalité, la solution, c'est d'être résilient.
D'accord. Ok, merci beaucoup,
Ambroise. Et de trouver la solution.
D'accord.
Pour nous-mêmes, d'abord.
Ok, merci Ambroise. Oui, mais Mangla, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un problème, c'est-à-dire la cherté de ces produits, et tel que notre confrère l'écrit, tomates et piments verts au prix d'or. Quand vous allez au marché, c'est là où vous constatez même d'ailleurs l'effet alors du phénomène. Alors, est-ce que nous avons vraiment l'opportunité de s'adapter à cela ou de prendre des précautions ou des dispositions avant que cela n'arrive?
C'est vrai que la nature elle est capricieuse depuis un moment. On parle du dérèglement climatique, et c'est d'ailleurs nous humains également qui sommes à la base, n'est-ce pas, de ce fléau là. Mais la réalité c'est que la cherté de la...
Magola, il semble que les gens ne t'écoutent pas à la maison. Je vais de prier plutôt alors de l'autre côté, le temps de donner la parole à Michel. Michel, c'est vrai, c'est un phénomène auquel nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire la cherté des produits surtout produits vivriers. Mais est-ce que nous avons vraiment ce pouvoir de s'adapter à cela ou de prendre des dispositions?
Bon, s'adapter. En quoi faisant, puisque notre confrère, j'ai lu en tout cas à la une de son journal où il dit que le piment et la tomate coûtent le prix d'or, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Oui, à prix d'or. Est-ce que, bon, à ce niveau-là, on peut parler d'adaptation?
Je le dis par rapport au changement climatique.
Non. Le changement climatique, c'est vrai, c'est en partie. On peut se dire que, bon, ça fait que, par exemple, l'année dernière, les pluies se sont retirées beaucoup plus vite. Et donc, le temps qu'on a passé, les maraîchers n'ont pas eu assez d'eau pour commencer vite leurs travaux et maintenant on a eu des difficultés pour avoir le gombo frais, les tomates et tout. Mais moi je dis que il faut voir le problème là sous l'angle global. Pourquoi je le dis, c'est de voir est-ce que le Togo ne peut pas encourager la culture donc de ces tomates là-haut, du piment et autres, pour qu'on ait ça en plein temps. Parce que bon, nous, on a de la peine à voir si dans d'autres pays, ils en ont. Quand je prends le Bénin,
le Burkina,
les tomates qui viennent très chères, ça vient du Burkina. Alors que si, du point de vue climatique, vous voyez, eux, ils sont dans la zone sahélienne, nous, on est ici, où on profite beaucoup plus des précipitations qu'eux. Mais comment est-ce qu'ils s'organisent ils sont arrivés à s'organiser pour avoir de la tomate, de l'oignon et tout. C'est de ça que les questions. Il faut quand même, qu'à un niveau donné, qu'on voit, qu'on développe une politique structurée dans ce domaine-là. Pourquoi en plein temps? Parce que lorsque, bon, il y a des gens qui ne dépassent jamais Thévié, hein, ils ont 80 ans, ils n'ont jamais dépassé Thévié. Ceux qui vont au nord, ils voient, il y a des espaces cultivables, hein. Mais ça appartient à qui? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces espaces-là? Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut, en tout cas, voir pour que, en plein temps, malgré les changements climatiques, malgré les difficultés de pluviométrie, qu'on puisse développer, en tout cas, des idées pour que les spécialistes, les maraîchers, vous les appelez comment, je ne sais pas, quand même, qu'ils puissent produire ces tomates-là en plein temps, pour que nous ayons cela à tout moment. On ne peut pas toujours se plier à la pluie, hein, à tout moment. Il faut qu'on ait quand même cette possibilité d'avoir des banques d'eau. Des banques d'eau pour utiliser, lorsque les pluies auront, en tout cas, se seront retirées, pour qu'on puisse utiliser. Dans d'autres pays, c'est possible. Mais pourquoi pas chez nous? Maintenant, ça dépend de la volonté de ceux qui, en tout cas, ont la possibilité de décider.
D'accord.
Voilà.
Mmh. Oui, Mamadou, c'est vrai que il y a beaucoup de fonds hein, qui ont été jetés alors dans l'agriculture et aujourd'hui, toujours est-il que pour les résultats, à ce que du moins cette agriculture soit plus une agriculture alors de subsistance et que ça nourrit bien sûr son homme, on trouve les produits très chers également. Ça veut dire que ça, déjà ces fonds jetés alors dans l'agriculture finalement, et ça ne donne pas vraiment ses effets?
Vous savez, on peut dire que nous sommes à l'heure du bilan de tous ces projets, tous ces programmes qu'on a eu à Agricef. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme projet ou programme et font d'ailleurs pour, dit-on, contribuer à ce que le Togo ait une agriculture qui soit beaucoup plus rentable. Maintenant, aujourd'hui, quand on se pose la question, mais pourquoi les produits de consommation sont à prix d'or sur le marché, je le disais tantôt, c'est vrai que la nature, elle est capricieuse, ça on le sait, le dérèglement climatique est passé par là, mais au-delà de tout, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? D'ailleurs, dans notre journal paru ce jour, nous avons fait un article sur le recensement agricole, le recensement national agricole en cours, et vous allez constater que déjà les premiers chiffres font froid dans le dos parce que quand la pluie fait mine grise, c'est-à-dire fait ses caprices, et que nous n'avons pas, la précipitation qu'il faut pour faire notre agriculture, mais au moins, par des techniques, on peut passer par l'irrigation. Mais quand on vous dit que le recensement agricole en cours révèle que seulement 4% des ménages togolais ont recours à cette technique agricole-là, vous comprendrez facilement que on est encore très loin de sortir de l'auberge. Et c'est ça qui amène justement à rejoindre la question que vous avez posée. Mais tous ces fonds, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que quand on sait que par moment, on ne peut pas tout maîtriser, mais avec les financements de gauche à droite, on peut quand même initier quelque chose qui puisse mettre à l'aise les agriculteurs, ceux qui, du moins, ont consacré leur vie. Parce que n'oublions pas que la population togolaise est globalement agricole, avec des terres arables, que nous avons des terres cultivables. Mais tout ceci, si on a tout ceci et qu'à la fin, les produits soient encore très chers sur le marché, c'est qu'il y a un problème. Et au-delà de tout, on peut se poser la question, mais quelle cartographie agricole on a à ce jour au Togo? Mais je crois que loin de... que ça soit peut-être une insulte à l'endroit du monde paysan au Togo, mais c'est un peu comme du charlatanisme, hein. Vous vous réveillez et puis vous dites, je vais essayer voir si ce produit peut marcher. Alors que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut procéder par des mécanismes. Il faut même procéder par une cartographie agricole pour savoir que de tel territoire jusqu'à ici, voilà telle catégorie, enfin, de produits qui peut être produit, enfin, qui peut être rentable. mais jusqu'alors on n'en a pas vraiment. Donc ceci amène à se poser des questions sur le parcours qu'on a fait en termes de politique agricole et jusqu'à ce jour, mais et faire une évaluation sérieuse de ce parcours là pour savoir ce qui a marché, qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis et qu'est-ce qui reste à faire. Sinon je crois que si on se jette à l'eau à chaque fois et à un moment donné quand Dame Nature est clémente avec nous, la production elle est sédentaire, mais juste après la nature fait ses caprices, on est en manque et la conséquence je dirais c'est que les produits seront extrêmement chers sur le marché. Donc je crois que tout ceci nous amène à s'arrêter un temps soit peu pour se poser des questions, faire un meilleur diagnostic de tout ce qu'on a comme programme agricole, politique agricole, et même des investissements qu'il y a dans ce domaine, qu'est-ce qu'on en fait. Et je crois que si on arrive à faire cette évaluation avec un sérieux, on peut avoir une idée clairement au moins de là où on peut aller d'ici 5 ans ou 10 ans.
D'accord, je suis sur le sujet tel que vous l'avez dit, votre journal Flambeau des démocrates a titré bien sûr sur le sujet ce matin, recensement national agricole, chiffres et tendances qui font frémir, c'est bien cela. Nous allons quitter le sujet, on s'intéresse à un autre sujet bien sûr. Ambrose, nous nous intéressons bien sûr à l'enseignement supérieur puisqu'on en parlait le jeudi passé sur un dossier même d'ailleurs que vous avez évoqué ici, bien sûr, et vous écrivez enseignement supérieur et examen national, malgré son incompatibilité avec le LMD, le ministère persiste et signe sans les universités publiques. C'est bien cela? Allez-y, oui, Ambrose.
Oui, c'est bien cela. Le jeudi dernier, nous avons évoqué le volet juridique, effectivement l'incompatibilité qui a organisé un examen national dans un système comme le système LMD. Et on a si bien dit que c'était l'ancien système qui faisait cours avant 2008, où le système LMD est introduit dans l'université. Ça pouvait passer. Mais avec le système LMD où les gens valident des acquis, des crédits, c'est-à-dire qu'en L1, en licence 1 ou 2, vous validez des crédits, vous pouvez continuer, on continue. Mais il y a des crédits quand même à valider. Il y a des UE à valider avant de monter. Tu peux continuer. Ce n'est pas comme en terminale ou en première, on fait la sommation des notes et on prend la moyenne. Non, non, non. Et donc, ce n'est pas possible qu'on organise un examen national. Et nous, aujourd'hui, nous avons touché le volet et disparaître entre organiser un examen national à l'intention des universités privées, des étudiants des universités privées, sans prendre en compte les universités des étudiants des universités publiques. Ce n'est pas aussi possible. Donc vous voulez délivrer deux diplômes pour les gens de même niveau et de même UE. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que donc on considère que les privés sont à part, les examens seront organisés à part pour certaines personnes parce que les universités publiques ont refusé. Le ministre Iou en son temps les avait invités, ils ont refusé, ils ont tenu un atelier à Cara, ils ont dit niet. Maintenant, quand les autres ont refusé, ils se sont arc-boutés sur les universités privées qui déjà sont protégées par le CAMES et le REJAO. Le CAMES, vous connaissez le CAMES?
Oui, tout à fait.
C'est des institutions supranationales qui déjà valident la crédibilité des diplômes, la qualité de l'enseignement. Et le REJAO aussi est dans le même. Le REJAO, c'est ce réseau-là qui. Le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Et le CAMES, il vient souvent accréditer. C'est-à-dire, si votre licence est accréditée, CAMES, c'est vous qui êtes à la page, quoi. Et donc, les ministres qui sont passés par le ministère de l'enseignement supérieur, à Kpangana, et Broome, et jusqu'à Abraham, mais ils avaient les mêmes idées, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils se sont heurtés à des choses. On a délivré des agréments à des universités privées qui ont la latitude de délivrer des attestations de diplôme à leurs étudiants. Les mêmes enseignants qui interviennent dans les universités publiques, c'est les mêmes enseignants qui interviennent dans les universités privées. Moi, par exemple, je suis un pur produit de ces enseignants. Moi, j'ai fait l'université du Bénin. Avant de reprendre mes cours de première année jusqu'en cinquième année pour le master, les professeurs comme le professeur Hadi Nonou, par exemple, que nous, on appelle le pape du droit au Togo, il était le président de l'université, il n'intervient plus dans aucune université au Togo, à part là où moi j'étais, à l'ISDI, j'ai fait IRIS aussi. Et le professeur Hadji intervient dans les universités en Afrique. Maintenant, peut-être il est un peu fatigué, mais il intervient toujours là-bas. Il y a le professeur Honaké, qui m'a fait le cours, le professeur Namtougli, qui est le ministre de la Justice, c'est mon professeur, il m'a fait le droit administratif. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas vouloir organiser un examen national dans un système qui a cours dans, partout dans le monde, jusqu'à Harvard, à Columbia. Et vous allez imaginer que chacun, il y a des syllabus, il y a des maquettes pour chaque université. Il y a aussi ce qu'on appelle des curricula. Mais si vous voulez harmoniser, il n'y a pas de souci. Harmoniser et que les et renforcer le contrôle et la surveillance des évaluations pour l'armatin et la mousson, je parle des évaluations, c'est semestriel quoi, pour que ce que vous voulez, la qualité et le diplôme soient valides. S'il y a des ratés dans certaines universités, vous avez la possibilité d'intervenir pour mettre un terme à ça. Le ministre, vous l'avez fait. On a même fermé certaines universités privées. Maintenant, pourquoi maintenant organiser des examens? Cette question va demeurer. Nous avons interrogé, nous avons recoupé l'information jusqu'au ministère de l'enseignement supérieur. Et là, on a appris que la source nous dit qu'en réalité, les universités publiques ne sont pas dedans parce qu'ils sont autonomes. Alors qu'on les avait, impliqués, ils ont refusé. Maintenant, ils sont encore revenus et ils disent que l'essentiel, c'est les universités privées qui sont concernées et dont certains UE fondamentales seront soumis chaque semestre à l'examen national. Ce n'est plus même par année, hein, c'est chaque semestre. Mais vous allez perturber, ils vont perturber l'enseignement supérieur. Il continue en disant que c'est pour éviter certains laisser-aller. Nous, on estime que c'est de la salace en perspective. Et donc, aujourd'hui, on a interrogé aussi un docteur. Oui. Le docteur, la semaine prochaine, nous allons publier ça. Il est revenu scientifiquement sur l'incompatibilité entre le LMD et l'examen national.
D'accord.
Et maintenant, pourquoi on a délivré la demande aux universités privées? Mais les gens vont en Europe. Les gens vont avec le diplôme là, ils continuent en Europe, en France, partout, au Canada.
D'accord, merci Ambroise. Oui, Michel, c'est vrai que le débat, nous l'avons mené le jeudi dernier sur cette question alors d'incompatibilité entre l'examen national au niveau alors de la licence et le système LMD. Est-ce que vous trouvez aussi quelque chose de ce genre?
Vous savez, c'est un vieux débat. Hein. Moi, je pense que on a débattu de ce sujet il y a de cela quelques années. Même l'année dernière, même, nous avons débattu de cela. Moi, ce que j'ai eu à dire à l'époque, c'est que si à un moment donné, c'est l'État qui délève les agréments aux écoles et instituts supérieurs, si on reproche ou on a des choses à reprocher à une école d'enseignement supérieur, mais qu'on indexe ou qu'on appelle, qu'on remonte les bretelles à cette école, à cet institut, que de vouloir... vouloir organiser les examens nationaux, il y a de l'incompréhension totale. On ne sait pas comment ça va se passer. Comme Ambroise le disait, vous savez, les enseignants qui enseignent à l'université, en tout cas dans les universités, les deux universités publiques, c'est eux qui enseignent encore dans les écoles. Et moi, je fais ma CE2. Ceux qui nous enseignent, la plupart viennent des universités de Lomé, surtout de l'université de Lomé, qui nous enseignent. Bon, on ne voit pas quel est le problème. Si particulièrement il y a des soucis par rapport à la qualité de l'enseignement dans une école, on peut voir comment régler ce problème-là que de vouloir organiser les examens. Nous allons voir, on va se coûter. Parce que je me dis à un moment donné, l'État reste l'État, et s'il a pris toutes les dispositions pour y arriver, bon, tant mieux. Mais les étudiants que nous rencontrons, qu'ils soient dans les écoles privées ou dans les études, disent ne pas avoir peur de ces examens nationaux, mais ils redoutent le manque de moyens pour pouvoir organiser ces examens-là dans de bonnes conditions. C'est tout. Sinon, l'État reste l'État, mais à condition qu'ils mettent les moyens nécessaires pour y arriver. Sinon, même les professeurs qui enseignent à l'université, il y en a qui sont à la tête des écoles. Des écoles d'enseignement supérieur, de choses. Ils ne comprennent pas.
C'était privé.
Privé. Ils ne comprennent pas quel est cet acharnement à vouloir organiser des examens nationaux. Mais nous allons voir. En tout cas, heureusement que nous, on est dans le domaine de la communication. Nous allons voir, scruter à la lettre ce qui va se passer dans ce sens-là.
D'accord, Michel, je reste avec toi hein, pour parler alors du Conseil national alors de défense et de sécurité. Vous êtes revenu sur le sujet, ce conseil qui a été mis en place tout récemment. Et vous écrivez CNDS, une initiative louable du chef de l'État pour contrer les menaces sécuritaires. Vous trouvez que c'est une initiative louable?
C'est une initiative louable parce que quand vous voyez le Conseil national de défense et de sécurité, quand vous lisez à tête reposée les prérogatives accordées à cette institution, vous allez comprendre que c'est une institution transversale sur tous les services qui ont en tout cas en charge de préserver la sécurité dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un service qui est appelé à coordonner toutes les actions, en tout cas du point de vue sécuritaire, toutes les actions pour faire en sorte que la paix sociale puisse être préservée, pour que le bien-être puisse être préservé. Parce que, on le dit souvent, ceux qui veulent la paix préparent la guerre. Ça veut dire quelque part que si vous voulez la paix, il faut mettre les moyens pour pouvoir être en mesure de contrer toutes les actions, en tout cas nocives, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'elles soient organisées à l'intérieur, il faut être prêt. Et c'est, je pense, dans ce sens-là que cette institution a été mise en place le 10 janvier dernier. Et déjà, il y a un secrétaire général qui a été nommé il y a de cela quelques semaines.
Le colonel Bakali.
Donc, ça veut dire quelque part que le gouvernement, en tout cas le chef de l'État, est vraiment est tellement soucieux de la sécurité de nous tous.
D'accord. C'est très important. Magloire, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que c'est un mécanisme louable mis en place par le chef de l'État?
Non, mais je crois que les autorités politiques ont pensé la mesure et ont donné la posture qu'il faut à cette mesure, c'est-à-dire la portée juridique à la chose, jusqu'à ce que l'institution ne prenne corps. Je présume que c'est parce qu'un travail minutieux a été fait en amont pour mesurer la pertinence d'abord de cette institution qui sera créée et son apport à la sécurité nationale, surtout à la défense. Surtout quand vous voyez un peu le contexte sous-régional et surtout national, il était de bon ton que chaque État se prépare minutieusement à faire éventuellement face à toute velléité, n'est-ce pas, de l'envahisseur, parce qu'il serait un peu hasardeux d'être un gouvernant avisé et que rester là jusqu'à un moment donné, on vous dit que l'ennemi est à vos portes. Et je crois que ce que Lomé est en train de faire ne s'inscrit que dans la logique, dans la bonne logique des choses. Maintenant, moi, ce que je crains, ça c'est un peu mon avis, c'est comment mettre en musique toutes ces institutions dont l'objectif final est la sécurité et la défense nationale. Et n'oublions pas, il y a plusieurs structures, l'état-major, le ministère de la sécurité et tout. Mais quand on adjoint à toutes ces institutions qui existent déjà une autre institution dont l'objectif est pratiquement le même, moi, là où je me questionne, c'est que comment faire pour mettre en musique toutes ces institutions pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le fonctionnement. Mais si l'inquiétude est levée à ce niveau, je crois que il n'y a pas grand-chose à dire parce que je présume, il est question beaucoup plus de la sécurité nationale, de la défense. Et donc toute initiative est la bienvenue et je ne crois pas me tromper que Lomé a bien fait en pensant à la mise en place de cette institution. Maintenant, que chacun s'arme de courage parce que ça ne va pas être une aventure facile. Michel le disait tantôt que aussitôt l'institution créée, qu'il a été doté d'un secrétariat, je sais pas si c'est un secrétariat exécutif ou général, mais je crois fort en la qualité personnelle de l'homme qui a été mis à ce secrétariat pour qu'il puisse justement répondre à moi mes attentes, parce que je parlais tout tantôt de l'harmonie qu'il devrait avoir entre toutes les institutions dont la mission est donc de veiller à la sécurité, à la défense nationale. Et si cet aspect a été vraiment bien pensé, mûri, je crois que le reste, on ne peut donc que se réjouir, parce que à la fin, ça rassure nous, populations, parce que c'est aussi du rôle de l'État de veiller à ce que les populations vivent en toute accalmie, dans la paix, et que voilà, au cas où même l'ennemi tenterait à se lancer dans une velléité d'attaque, qu'on le mette hors de tout état de nuit.
Merci beaucoup, Mangoula. Oui, Ambrose, c'est vrai que de quand on parle alors de souvent dans cette lutte, hein, de l'implication de la population, est-ce que finalement avec ce conseil, hein, est-ce que cette implication sera effective?
Oh, bon. Toute initiative qui va à l'endroit de la population pour son bien-être, elle est à saluer. Et, sauf que des fois, il y a un décalage entre les initiatives prises par nos autorités et sa destinée. C'est-à-dire les initiatives n'ont pas tellement de répondants, parce que il y a un adage que je ne maîtrise pas, mais je vais essayer, qui dit souvent « Tout ce que vous faites pour nous, sans nous, est contre nous. » Et je crois que tout projet qu'il faut initier doit partir de la base, doit partir de la population. Néanmoins, tel que conçu, si est bien ficelé, si c'est bien coordonné, et que les gens sérieux sont à la tête de ça, et qu'on puisse avoir les résultats à la fin, on ne peut que apprécier par la fin. Ce que nous reprochons toujours ici dans ce pays, c'est que il n'y a souvent pas aussi de reddition de compte à la fin des résultats. C'est-à-dire que un suivi des projets, et comment l'évaluer. On parlait tantôt de la tomate et de l'agriculture, des maraîchers, tout ça là, de la cherté des produits. C'est parce que certains projets, par exemple, au niveau du PNIASA, au niveau de l'agriculture, du ministère, n'ont pas marché. Des projets qui ont été mal gérés. Donc, on en sait ces exemples-là. Mais je me dis, il faut toujours accorder le bénéfice du doute et prendre avec des gants tout ce qui vient. D'abord, c'est vrai qu'il y a, on peut pas parler de paradoxe ou de contradiction. Accorder le bénéfice du doute à ce projet-là. Et en même temps, prendre ça avec des gants, c'est-à-dire qu'on attend de voir ce que ça peut donner,
d'accord,
pour que l'impact soit ressenti réellement au niveau des populations.
D'accord. Ok, mais Ambrose, je reste toujours avec toi. Hein. Vous revenez sur la 5e République et vous écrivez 5e République déjà en souffrance du rififi autour de celui qui sera la première personnalité de l'État. Mais attends, en quoi la 5e République est déjà en souffrance, Ambrose?
Oui, sa souffrance s'est déjà révélée par la contestation de l'opposition et de la grande majorité des populations.
Mais est-ce que ce n'est pas dans l'ordre normal des
choses? Qui n'ont pas été consultés avant l'initiation ou l'initiative de la Constitution et de la 5e République. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que c'est une Constitution qu'on a vue en plusieurs versions. Moi, j'ai eu 3 versions et au final, je me suis demandé laquelle version prendre. Finalement, on est arrivé à sceller une version au niveau de l'Édit Togo. Et quand vous allez sur Google, vous tapez Constitution 5e République, on va vous sortir quelque chose qui est dans le journal officiel. Et ce qui est préoccupant ici, et que nous révélons ici, c'est que à chaque fois, on a senti qu'il y a eu des modifications pour une Constitution qui n'a pas pris le chemin normal. Parce qu'une constitution, en réalité, doit être précédée d'une consultation nationale. Sur une année au moins. Comme on en a fait au temps de la CVG avec le HCD, H2IG ou la Tokombo. Jusqu'à arriver à Tapamé, je ne sais pas si c'est les pierres ou c'est les haches qui l'ont chassé là-bas, avec Nawanana, tout ça là. Mais aujourd'hui, à chaque fois que nous nous débattons, ils trouvent des écueils, ils corrigent, ils modifient. Le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est que on ne connaît pas encore de façon officielle le nom de celui qui sera le président du conseil de cette du Conseil des ministres.
Mais la constitution est claire, non?
Oui, le ministre Barra l'a dit dans le Dufogo la dernière fois.
Bien sûr.
Mais si c'est ça, c'est Fong Yassine qui doit être là-bas. Il est actuellement président. Il doit faire parution de service avec lui-même. D'accord. Et jusque-là, le problème ne se pose pas à mon niveau.
Et c'est où le problème?
Il doit y avoir un président de la République qui doit être désigné par le Parlement. C'est-à-dire les deux chambres réunies.
Tout à fait, en congrès.
Désigné en congrès sans débat. Vous voyez ça? Et apprécié. Il semble que quelque part, c'est le président de la République là qui sera. Ça, il y aura des noms qui seront proposés. Et c'est le président du Conseil qui sera. Bon, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Mais là où le problème se passe, là où nous, on voudrait en venir, c'est que qui sera la première personnalité de l'État? Dans un pays, il y a le protocole, il y a le rang protocolaire pour toute institution, pour toute autorité dans un pays. Chez nous, au Togo, la première personnalité de l'État a toujours été qui? C'est le chef de l'État. Ou bien?
Et c'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça, le président de la République. Mais ici, comme vous lisez bien les prérogatives du président du Conseil des ministres, c'est pratiquement le Béhanzin du Togo. Pour ne pas dire le pharaon, le Ramsès II. D'ailleurs, il détient tous les pouvoirs du monde, ici. D'ailleurs, il devient le pharaon, le Ramsès II du Togo. Maintenant, quelque part, une contradiction, parce qu'on a appris qu'il y a du Rififi, et le Rififi, c'est-à-dire que la manière dont la Constitution était conçue, et que certaines dispositions, dont l'article 40 de la nouvelle Constitution, reconnaît ce rang de première personnalité de l'État au président de la République, qui dit le président de la République est le chef de l'État. Quand on dit que le président de la République est le chef de l'État, même celui qui sera désigné par les parlements, sans passer par la case suffrage universel direct comme vous le passez, lui, il demeure toujours le chef de l'État. Donc, chef de l'État veut dire quoi? Première personnalité de l'État, ce que le Fonds Nassigbé ne veut pas entendre, selon ce que nous avons eu comme information. Et a raison, il a peut-être raison, parce que c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Vous imaginez le Fonds Nassigbé qui était président, avec tous les rangs et privilèges possibles, et à ce rang de première personnalité de l'État, et qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y a un président qui a été élu par le Parlement, qui devient chef de l'État. Et donc, tout le protocole, c'est que, c'est comme, et ce n'est même pas le cas du Sénégal. Là, c'est autre chose. Parce que là, nous sommes dans un régime, pratiquement celui présidentiel. Et ici, nous sommes dans un régime parlementaire. Et donc, partout dans le monde, c'est le président qui a le premier rang de première personnalité de l'État. Ici, on veut remplacer, on veut inverser le rôle. Parce que celui qui était le tout-puissant va demeurer tout-puissant sous une autre casquette, président du Conseil des ministres, mais il n'est plus le chef de l'État. Ce qui fait qu'il n'est plus la première personnalité de l'État, mais le monsieur revendiquerait cette position-là.
Merci,
sinon ça ne passera pas.
Merci, Ambroise. Oui, Michel, est-ce que vous avez aussi, avec les explications d'Ambroise ou l'analyse alors d'Ambroise tout de suite, est-ce que vous avez aussi l'impression que déjà la 5e République est en souffrance?
Bon, c'est de quelle souffrance Moi, je suis tellement heureux qu'Ambroise nous explique.
Une souffrance congénitale.
La 5e République.
Depuis la naissance.
Lui qui disait qu'il n'a jamais vu la Constitution.
Votre 5e République est en souffrance.
Maintenant, c'est lui qui explique vraiment
aux
auditeurs.
Michel,
cette Constitution. Ça veut dire que la 5e République est vraiment en marche.
Avant.
Très bonne voie, oui.
Avec cette cacophonie-là.
Non, quelle cacophonie.
On laisse Michel.
Non, il n'y a pas de cacophonie. Je pense qu'on ne faut pas chercher problème là où il n'y en a pas. Pour le moment, la Constitution est déjà là. On est à l'étape de la mise en place des institutions. Maintenant, nous allons attendre. Lorsqu'on mettra en place, ou bien on va élire, et le Congrès va élire le président de la République, Ambroise va savoir, maintenant il va chercher pour voir quelle est la place du président de la République par rapport au président du Conseil. C'est tout. Sinon, pour le moment, ce qu'il dit là, non, peut-être c'est ton interprétation. Oh. Peut-être l'esprit est là. L'esprit est là. Tu sais, il y a ce qu'on appelle l'esprit dans le test. L'esprit, quand il y a le test, il y a l'esprit du test.
Donc, l'esprit est différent de ce que je viens de lire.
Tu as pris le temps de t'expliquer. Pourquoi tu embrouilles, tu ne veux pas que les autres, quand même, moi, se fassent comprendre?
Non, moi, j'ai lu une disposition.
Oui, mais Ambroise, Ambroise, j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui sont morts dans les années 90 pour qu'il y ait liberté d'expression.
pluralité d'expression. Pourquoi tu veux que ton opinion passe à tout prix, que personne n'a rien à dire, ce que tu dis là, c'est ça.
Mais Michel, va, vas-y, s'il te plaît.
Donc, non, il faut que je lui dise
ouais,
ça.
Mais vas-y,
quand il parlait, est-ce que personne...
Non, justement,
moi, je sais comment l'écouter, mais je ne l'ai pas coupé.
Vas-y,
non,
vas-y,
je ne l'ai pas coupé.
Vas-y,
donc, il fallait que... Je dis, moi, je n'ai pas d'appréhension par rapport à ce que je fais actuellement. C'est dans sa tête qu'il est en train de chercher des gymnastiques. Sinon, la constitution n'a aucun problème. S'il veut, on va attendre d'ici peu là. Je pense qu'il y aura un événement important. Nous prions que le président de la République soit élu avant peut-être le 27 avril. Et nous allons voir au niveau de la préséance. Au niveau, vous voyez, au niveau du protocole, comment ça va se passer. Et il aura le cœur net. Sinon, pour le moment, c'est des gymnastiques pour amuser la galerie. Sinon, il n'y a pas de problème.
D'accord. Magula?
Non, mais je... Bon, disons que le débat, il est là. C'est vrai que d'un côté, il y a Anan qui n'accepte toujours pas l'évidence de cette nouvelle constitution. Et de l'autre côté, comme Michel l'a dit, il y en a ceux aussi qui pensent que le train est en marche et qu'il faut peut-être chercher à rentrer dans le train pour arriver à bon port.
À la gare
plutôt. Maintenant, pour la question soulevée par Ambroise dans son journal, je ne sais vraiment pas s'il y a du rififi, mais ce qu'il y a, c'est que, au-delà de tout, nous sommes des journalistes, observateurs de la scène politique. On peut émettre des avis sur la base de ce que nous avons devant nous et des questionnements que nous nous faisons individuellement. C'est pas encore du délit. Maintenant, ce que moi je pense, c'est que n'oublions pas, au-delà de tout, je crois que fondamentalement, il y a un débat qui se pose, un débat protocolaire, c'est-à-dire quelle va être la préséance en termes de protocole. Parce que...
Lors des événements,
par exemple. Ouais. N'oublions pas, très bientôt, je présume, peut-être cette année, non, mais l'année prochaine, on aura 27 avril à célébrer. Et il va y avoir le président de la République et le président du Conseil
des ministres. Cette année, bien sûr.
Cette année, il se pourrait qu'il y ait un président avant le 27.
Il se pourrait, mais c'est pas vraiment sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en avril 2026, on aura les deux autorités, c'est-à-dire le président de la République et le président du Conseil des ministres. Maintenant, n'oublions pas...
Même avant cela, Ambroise, je ne te coupe pas, avant cela, il y aura d'autres événements qui permettront de découvrir ce que tu es en train de dire là.
Maintenant, au-delà de ça, l'autre question qu'on se pose aussi a trait, n'est-ce pas, au portrait ou à la photo officielle. Ça aussi, il faut y penser. Parce que on nous a toujours dit que le régime parlementaire dont on s'est inspiré, c'est que c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie. Mais après recherche, on a découvert que dans ces régimes parlementaires, généralement, c'est la photo officielle, c'est la photo du président de la République qui est la photo officielle dans l'administration publique. Maintenant, est-ce que chez nous, on va essayer de renverser la pyramide ou ça va rester tel? En tout cas, c'est des réflexions. Et d'ici là, on avisera.
Justement, c'est des réflexions. Oui, mais on va aborder notre dernier sujet. C'est contenu même d'ailleurs.
Parce que
je l'évoquais. Hein. J'évoquais ce sujet, bien sûr. J'évoquais ce sujet. En base, j'évoquais le sujet déjà au début, alors en début, pardon, d'émission, dans mes mots introductifs. C'est par rapport à cette mission de médiation qui a été confiée au président de la République, Faure Gnassingbé. Hier mercredi, le président a entamé alors cette mission quand il était parti d'abord chez le président angolais et également chez le président congolais et Félix Tshisekedi. Vous êtes revenu bien sûr sur le sujet aussi et vous avez pris un autre angle bien sûr et vous écrivez Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Le mouvement dénonce la médiation de Faure Gnassingbé dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Mais en quoi aujourd'hui on doit dénoncer cette médiation, Ambroise?
Oui, Freedom Togo a sorti une lettre que beaucoup ont lu sur le net.
Il y a d'autres partis politiques également. Des partis politiques également qui ont dénoncé cela.
Il y a une discordance entre la mission confiée à Faure Gnassingbé et par rapport à ce qui se passe au Togo. Les Togolais sont sous un régime qui les fatigue depuis 60 ans. Et le système n'a pas changé, le régime n'a pas changé. C'est les hommes qui ont changé. Certains hommes ont changé, mais le système demeure. Au point que, chez nous, en milieu élevé, si tu n'as pas fini de balayer ta propre maison, tu ne peux pas hasarder, aller balayer et la maison d'autrui. C'est ce qui se passe en réalité. Ça, il ne sert à rien de courir derrière la médiation et oublier que les Togolais souffrent, que les Togolais ont besoin de changement, que les Togolais ont besoin de démocratie. Les Togolais aussi ont besoin d'un pacificateur qui puisse régler les problèmes entre eux. Pas Daniel Simbé qui est en prison. Vous voyez ça? Il y a les Togolais qui n'ont pas volé, ni poule, ni sandalette, qui se retrouvent en prison juste parce que leur opinion gêne. Et donc, aujourd'hui, s'il peut mener à bien une médiation là-bas, qu'il revienne répliquer ça ici.
D'accord, merci.
Parce qu'avant que d'avoir les moyens de régler une question de médiation, il faut avoir un moyen de pression.
D'accord, merci
beaucoup. Quel moyen de pression faut l'assumer? Merci, assure,
oui, merci Kagame, à Kagame,
qui était chef d'État,
merci, et sur Tshisekedi. Merci, Ambrose. Oui, et Michel, et quelle est votre analyse sur le sujet?
Non, est-ce que j'ai une analyse à faire? Moi, je souhaite seulement bon vent au chef de l'État, parce que l'Union africaine, c'est une grosse institution. Si elle a fait confiance au chef de l'État, c'est parce que les autres pères, en tout cas les autres chefs d'État, de l'organisation, ont compris que, fort de son expérience, le chef de l'État est capable d'apporter quelque chose pour que la paix puisse revenir dans l'est de la RDC. Parce que la guerre n'est pas une bonne chose.
D'accord.
Mais ils n'ont pas. Je pense qu'il y a certains qui veulent profiter de. Naturellement, il y a des gens qui sont jaloux, ils veulent profiter de ça pour lancer des picots au père. Mais,
d'accord, merci Michel.
Mais lui continue son travail. Toi, tu l'as dit qu'il était déjà. Qu'il a même déjà. Commencer.
D'accord, merci donc, Michel. Oui, 30 secondes, Magula.
Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis heureux en tant que Togolais que ça soit le président de notre pays qui soit désigné médiateur entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, moi, je dis, c'est pas délictueux de le dire comme en excuse, mais l'État, enfin, la famille, c'est l'État en miniature. De l'autre côté, quand on voit le schéma, il y a quelqu'un qui agit dans l'illégalité. C'est le Rwanda qui attaque, n'est-ce pas, la RDC. Tout le monde dit que c'est pas bon. Mais moi, je voudrais un président de la RDC qui soit mon président irréprochable, qui se lance dans cette aventure et qui réussisse sa mission. Mais quand vous voyez ces détracteurs relèvent des aspects comme quoi son frère est en prison, n'arrive pas à le sortir, c'est lui qui va vouloir régler des problèmes ailleurs. Je crois que quoi qu'on dise, c'est une petite tache noire. Et je voudrais sincèrement qu'il a le temps, parce que le pouvoir qui lui est donné par la Constitution lui permet de gracier, même si Kpacha a tenté, n'est-ce pas, à la réalité constitutionnelle, mais la réalité, c'est que il peut aussi le gracier. Il a fait 15 ans, il peut le gracier des 5 ans restants, et puis aller paisiblement faire sa mission et réussir.
Merci c'est beaucoup. Mon opinion merci en tant beaucoup. Que Togolais. Justement, c'est votre opinion en tant que Togolais. Vous avez le droit de donner votre opinion, et ceux qui nous écoutent aussi ont leur droit de donner leur opinion sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, ce qui nous amène même à les écouter sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission au Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez réagir également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, comme un ange aussi.
C'est au CENI.
Le messager de l'amour.
D'accord, allez-y.
Le chef d'État en Angola, ma félicitation à son excellence Monsieur François Nyasinde, surtout la paix au Togo, paix en Afrique et dans le monde entier. Sans la paix, on ne peut rien faire. Ensemble, soyons tous des artisans de paix. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, Océni, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est M. Nyamavo.
Non, c'est Sylvain.
Ah, c'est plutôt Sylvain.
Oui.
Ah, décidément. D'accord, allez-y, Sylvain.
La voix se ressemble quand même.
Effectivement.
Oui, je salue tous les confrères qui sont avec vos studios. Mais de toutes les façons, vous avez dit l'essentiel. Si le paysan est conscient qu'il a la bénédiction de son peuple, allons-y seulement. On lui souhaite bon vent. Et on ne peut qu'apprécier tout ce qui va découler de cette médiation. Bon, pour cette 5e République qui fait débat là, j'aurais souhaité qu'on oublie un peu pour avancer. Que ce soit 6e, 7e, 10e République, nous on veut que le peuple soit activement convoqué, attribué à cette 6e, 5e, 7e République. Nous on s'en fout. Il faut que les peuples en dialogue, le peuple souffre. Si cette 5e République peut nous amener à manger 3 fois par jour, allons-y comme ils ont l'habitude de le dire.
Merci beaucoup.
Merci, Sylvain. Bonne émission.
Merci Sylvain pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Faut pas que certaines personnes se trompent en comparant la négociation des 49 soldats ivoiriens par le président Faure Gnassingbé et ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Là, c'est la guerre qui oppose les rebelles au gouvernement en place et appuyé par un autre pays. C'est Ibrahim qui nous écrit 90 86 35 35. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, Pélé, bonjour.
Bonjour.
D'accord, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Bon, je pense que pour cette médiation, c'est pour marquer la 5e République et elle va sûrement passer le 6 mai prochain. Bon, pour la médiation, cette médiation-là, je pense que quand je le pense battre, je pense que ce sont les verbes qui en souffrent. Est-ce que Faure Gnassingbé ne va pas souffrir? Est-ce qu'il va les deux là-bas? Mais des gens posent souvent des questions. Quelle est sa pression là-bas pour ces gens-là? Je pense que si vous voyez, lorsque Kabila perd prenait le pouvoir, sans même pas prendre le pouvoir, l'Amérique, qui est même le sous-sol du RDC, et les Chinois sont là, et les Palas sont là, ils sont là. Je ne sais pas s'il faut aller dire à ces gens-là de quitter là-bas, c'est ça la médiation. Et tout à l'heure, M. Andrés parlait de la passation du pouvoir. Je pense que depuis 1967, cette passation-là est toujours dans la région de la famille Nassibé. On n'a jamais vu une passation du pouvoir dans ce pays. C'est dommage. Merci.
Merci Pélé, bonjour Pascal. La charge des voyages du président de la République dans cette mission est-elle payée par qui? Le contribuable togolais ou l'Union africaine? C'est une question que nous pose Désiré qui nous écoute 90 86 35 35. Allô?
Oui, bonjour grand frère.
Bonjour Benoît, comment vous allez?
Je vais bien, et chez vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu, allez-y.
Ok. Vous avez parlé de nos routes. Il faut que le ministre qui s'occupe des routes vienne dire à chaque fois l'état de nos routes. Il ne faut pas qu'il se cache derrière la vision du chef de l'État, le gouvernement, le... Non, non. Eux-mêmes n'ont pas venu nous parler comme ça se fait dans les autres pays. Sa compétence, leur compétence. Le ministre de l'Agriculture. Lui aussi, pourquoi comment se fait-il que le piment vert et la tomate sont chers? Alors que quand les choses sont allées dans les autres pays, au Burkina, c'est moins cher. Et si c'est venu de Burkina vers Lomé, c'est trop cher. En ce qui concerne la médiation du chef de l'État, vous savez, ne parlons pas du mal de nous-mêmes, les Togolais. Le chef de l'État, il est compétent. Regardez ce qu'il a fait au Togo au moment de 2014 là, ou bien de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Quelle médiation il n'a pas fait avec l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition a fait? Bonne journée.
Bonjour à vous aussi, Benoît. Bonjour, Canal FM. Comment peut-on croire que, avec tous les terrains fertiles que nous avons, nous n'arrivons pas à les cultiver comparativement au Burkina Faso, qui a un sol rocailleux, arrive à exploiter cela jusqu'à nous fournir des tomates? Vraiment, mon pays va mal. C'est André qui nous écoute. Il est togolais, bien sûr. Il nous écoute depuis Dakar. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ah, cette fois-ci, j'ai bien reconnu la voix. C'est bien Yamavo.
Effectivement.
D'accord, allez-y.
Oui, bonjour.
Merci.
Le médiateur, on prie qu'il réussisse. On a les mots chez un président, hein, la paix. Ça bouge partout dans le monde. Après RDC Rwanda, il a déjà jumpé le Soudan, qu'il vient trouver la paix au Soudan. Qu'il vienne être médiateur entre la OAS et la France. Et il ne faut pas qu'il fuit la CDAO pour la OAS. Il faut qu'il soit un bon médiateur entre la OAS et la CDAO. Bonne émission.
Merci, Monsieur Diamavo, pour votre intervention. Bonjour, Pascal, et bonjour à tout le plateau. Et on attend juste alors de voir où nous conduira cette fameuse 5e République. C'est Prénom qui nous écrit le message, bien sûr. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, Pascal, bonjour.
Oui, votre nom c'est? Pardon?
C'est Abalou.
Ah, Monsieur Abalou. Oui, allez-y, Monsieur Abalou.
Oui, bon. Bah, c'est pour dire que la médiation de la RDC, là, a dit, le président Faure, on dit que chez nous, en pays d'Angola, on dit, on prend le pas de son papa. Le général là devant, tout le monde le connaît. Il n'avait jamais échoué à aucune médiation dans le pays. Pourquoi sont-ils là échoués? Sinon, parce qu'on considère que le premier entre les Rwanda et la RDC, là, c'est fini. Quand le président Faure est dans cette affaire, il s'est investi dans cette affaire-là. Considérez que c'est fini. La guerre va cesser dans peu de temps. C'est son papa qui a levé la place-là.
C'est un héritage, c'est ce que vous voulez dire.
C'est un héritage, non?
D'accord.
Et ça, et toi, bah,
merci beaucoup, Monsieur Abalou, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue. Votre nom, c'est...
Ce que je voudrais dire, c'est que le Togo est dans un état de siège. Nous souffrons en silence. C'est de la même manière, nous sommes habitués même à la souffrance. Cette médiation-là ne fait ni chaud ni froid au Togolais. Bon, si on réussit là-bas, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça peut changer sur le Togo? Pour le moment, nous souffrons ici. Nous souffrons tellement ici. Bonne émission.
Merci, 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour, madame Essie.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, bon. Et ça, c'est modeste et tout le monde. Je fais un coucou à vous tous. Et puis, habite ça. On ne l'entend plus, là. Il nous a abandonné. Hein? Je fais un coucou à...
Vous voulez parler de Abi Alpha?
Abi Alpha aussi.
Oui,
je lui fais un biathé.
Maître Abitessa. Oui, Maître Abitessa.
On n'entend plus, j'ai pensé à lui ce matin.
D'accord, allez-y.
Et
maintenant.
À tout le monde, je pense à vous tous, quoi.
D'accord, allez-y.
Ben, moi, je veux dire, là, mais vous êtes comment dans ce pays? On organise, les mêmes personnes organisent des élections en catimini, tout le temps. Après, on fouille, et puis ça entraîne mort d'homme des fois, ben, souvent. Et tu vous dis, c'est fait, on attend. Et ça sacrifie la constitution. Et le seul papier qu'on a pour dire qu'on est des humains, on est des Togolais, ça fait ce qu'on veut avec. Vous dites c'est bon, ça fait, c'est, on avance. Et puis, la dernière fois, en 5e République, on a tout seul fait parce que toutes les institutions sont périmées dans ce pays. Tout est périmé. Vous dites on va faire, on va voir. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et dans toutes les confessions au monde, on le dit qui fatigue un peu, on le donne, il y a des articles comme ça dedans aussi. On donne ça pour faire souffler le pays, la population. Voilà.
D'accord.
Je suis pas content avec ce que les Togolais font.
Oui,
à chaque fois, on avance.
D'accord. Merci, Madame Essi, pour votre intervention. Je pense que Madame Essi, c'est la dernière auditrice hein, pour le compte lors de cette émission. Je lis aussi cette réaction d'un auditeur. Bonjour Pascal. Les stations d'essence refusent de vendre de l'essence en bidon, alors qu'avec la coupure de courant, nous sommes obligés d'utiliser les groupes électrogène, comment allons-nous faire? C'est aussi une question, bien sûr, à l'ordre d'un auditeur, parce que peut-être il en était victime. C'est pour cela même d'ailleurs qu'il a fait, il nous a écrit ce message. Et on revient en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jeudi. Oui, Ambrose, votre réaction?
Oui, moi je voudrais profiter pour donner un éclairage sur un de mes articles. Si par rapport aux auditeurs, c'est celui qui dit qu'on souffre en silence, c'est lui qui a peut-être qui a raison. Maintenant, nous, on a parlé impôts, CNSS et AMU, salaire, électricité, le carnet des écoles privées continue. Dans notre article-là, nous avons constaté, nous avons enquêté, on a compris que les écoles privées, du CPE de maternelle jusqu'en terminale, qui, jusqu'au confessionnel, surtout les confessionnels qui sont nés avant l'État togolais, qui ont commencé par former les élites, l'économiste et togolais-libanais, Khalif est formé par une école confessionnelle, et des Nkodjo sont passés par une école confessionnelle. Ces écoles-là souffrent aujourd'hui dans la main de l'OTR, dans la main de la CNSS. Pour la CNSS, c'est des prélèvements. Mais le montant qu'on fixe maintenant pour ces écoles-là, c'est plus élevé que ce qu'on on prélevait par avant. Maintenant, l'OTR aussi est à la touche des écoles privées qui ont déjà des enseignants à la charge. Vous allez voir les écoles publiques. Ce ne sont pas proches de tous les habitants des quartiers. C'est les écoles privées qui les engorgent. Maintenant, avec ça, les enseignants qui enseignent ont gagné les concours, sont partis. Maintenant, au même moment, on parle du SMIG appelé aux enseignants. Le TR est là. La mire est arrivée à se greffer. La CNSS est là. Les salaires sont là. L'électricité est là. La révision des bâtiments, les investissements et le fonctionnement. Comment ils vont faire? Les écoles vont fermer. Alors que c'est les écoles privées qui aide le gouvernement à former les élites de ce pays en dehors des écoles publiques. Allez voir à CB. Ils sont 180, 120 dans les en terminale. Premier, second, premier terminale.
D'accord.
Maintenant, c'est les écoles privées qui... Il faut qu'on supprime le TR, on supprime les taxes pour les écoles privées.
D'accord. Oui, Magola.
Non, mais moi, je vais finir en jetant des fleurs à un jeune compatriote qui est en train de faire la fierté de la nation actuellement au Cameroun. Je vais parler de Donné TV7. Vous savez, ça fait quand même un bon bout de temps que les politiciens et les éperviers se sont accordés à enlever le peu de joie qui restait encore aux Togolais. Et donc, d'un coup, voilà une compétition ludique qui rassemble des jeunes sur le continent.
Et le Togo est à la finale.
Et aujourd'hui, le Togo joue la finale contre le Sénégal. Et quand vous voyez un peu l'émulation que ça suscite au sein de la population, surtout au sein de la couche juvénile, vous comprenez que le Togo avait besoin, n'est-ce pas, d'exprimer sa joie, d'être content, d'être heureux. Et ça, ce petit apport-là, c'est le jeune Donné TV qu'il apporte au Togolais. Félicitations à lui et bonne chance. Que nos prières l'accompagnent, que la victoire soit togolaise.
Je pense que c'est plus sur TikTok, ça se fait en direct sur TikTok, c'est cet événement ludique. Oui, Michel?
Moi, je n'ai pas particulièrement quelque chose à ajouter, mais je voulais saluer les malades qui sont sur les lits des hôpitaux. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers qui sont en train de se débattre pour les aider. Parce que vous savez, la santé, c'est quelque chose de précieux. Il faut la perdre avant de comprendre. C'est pourquoi mes pensées vont à tous ceux, à toutes celles et à tous ceux qui souffrent actuellement. Que Dieu soit de leur côté pour les aider à retrouver rapidement leur santé.
D'accord, c'est notre souhait aussi. Nous le disons et même avec toi que déjà tous ceux qui nous écoutent et qui sont malades, nous leur souhaitons une prompte cette guérison. C'est très important. Alors, merci beaucoup, Michel Yaotadza, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Ouara les Vainqueurs, analyste politique aussi, bien sûr. Magla Kinviteko, merci d'être passé dans cette émission. Rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Merci, Ambroise Yaokondo, d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal des Guadiens. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sicavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.